up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Et pour nous suivre, je le dis assez régulièrement en vidéo sur le site europe1.fr. C'est tous les jours, c'est en direct. Notre infomédia, gros plan sur un média qui n'en finit pas de grandir, Brut. Vous savez, ces vidéos verticales, format téléphone portable, visibles surtout sur les réseaux sociaux. C'est une marque mondiale, mais d'abord française, monsieur. Oui, et Brut vient de lever 40 millions d'euros. Pourquoi faire ? Réponse avec son fondateur Renaud Levent-Kim, ancien producteur du Grand Journal. Nos invités, Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1. TF1 qui lance sa plus grosse émission et sa plus grosse fiction depuis 10 ans. Masked Singer, ça c'est l'émission, un programme qui cartonne dans le monde entier. Et puis Le Bazar de la Charité, c'est une fiction en coprod avec Netflix, rien que ça. Et puis Jeff Panaclock, l'humoriste, le ventriloque, mais il déteste ce mot. Il viendra sans Jean-Marc, son abominable peluche de singe orange. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Mandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir ?
Alors, il y avait battle de séries médicales hier entre TF1 et France 2. Et c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée. La une qui a dominé la concurrence avec de nouveaux épisodes de la saison 2 de la série américaine Good Doctor. 4 200 000 Français ont passé la soirée avec le docteur Sean Murphy. 19,7% du public. C'est en légère hausse sur une semaine et c'est un bon score. En deuxième place, c'est donc France 2 que l'on retrouve avec là aussi une série médicale, mais une série française. C'était le lancement de la saison 5 de Nina et 2 800 000 téléspectateurs, 12,9% du public, ont suivi les aventures de l'infirmière de la 2.
Et j'ai justement découvert que c'était un genre à part entière, la série médicale. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Bailly de TF1, qui est très présent sur ce dossier.
Voilà. Et alors, dans un tout autre style, M6 est troisième avec un nouvel épisode, le 9e du meilleur pâtissier, son concours de gâteaux animé par Julia Vignali. Une soirée tout en douceur et en sucrerie qui était consacré aux princes et aux princesses avec une revisite d'un gâteau que l'on adore tous, la galette
déjà
des rois.
Mais attends, on n'est même pas à Noël, ils sont déjà la galette des
ils
rois,
étaient
c'est
déjà
pas possible.
La galette des rois. Alors je ne sais pas qui a trouvé la fève, mais les gourmands en tout cas ont trouvé le bouton 6 de leur télécommande. 2 500 000 fidèles ont suivi le meilleur pâtissier, 12,8% de part d'audience. Ensuite, au pied du podium, une fois n'est pas coutume, on retrouve Arte. Arte qui est donc quatrième avec le film Toutes nos envies de Philippe Lioret avec Vincent Lindon. 1 400 000 cinéphiles, 6,3% du public. Et alors la cinquième place, c'est la Bérésina pour France 3. Là aussi, c'était un rendez-vous pour les gourmands. La 3 qui proposait hier le festin de Julie, une émission gastronomique dans laquelle Julie Andrieux et ses coéquipiers ont concocté un repas digne de la belle époque. Et à peine 1 100 000 curieux ont suivi cette émission, 5,2% du public. Ça n'est pas terrible du tout.
Et puis aujourd'hui, vous nous proposez un petit tour du côté des programmes de 20h. On rappelle que c'est le pic d'audience de la journée.
Oui, alors d'abord le match des deux principaux JT sur TF1. Gilles Boulot était leader sans encombre avec son édition de 20h. 5 700 000 téléspectateurs, 24,9% de part d'audience. Sur France 2, tout va bien aussi pour Julien Bugier qui était aux manettes de la grand-messe. 5 millions de personnes, 21,7% du public. Et alors, du côté des talk shows, il y avait un très gros invité dans Quotidien hier, l'émission de Yann Barthès sur TMC. Quotidien qui recevait rien de moins que le réalisateur Martin Scorsese, monument du cinéma américain. Et gros succès pour Quotidien, 1 500 000 téléspectateurs, 6,5% de part d'audience. Et sur C8, c'était une autre ambiance dans TPMP, l'émission de Cyril Hanouna qui recevait Sylvie Tellier, la patronne de Miss France. Et là, ce sont 1 300 000 fidèles, 5,4% du public qui ont répondu présent.
Merci beaucoup Pierre Desereaux, à demain. Et vous serez présent.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Après les audiences, le journal des médias de Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'il y a au programme ce matin ?
Une frappe de bâtard contre le harcèlement. Orange et Altice qui sèment à nouveau. M6 se mobilise contre les violences faites aux femmes. Un monde sans viande sur France 2 et soirée de récompense sur BFM Business.
Et Cyril, c'est aujourd'hui la journée nationale contre le harcèlement et à cette occasion, la chaîne de dessins animés Cartoon Network s'est offert un ambassadeur de choix.
Un ambassadeur qu'on ne connaissait pas avant ceci.
Je ne crois pas que vous connaissez.
La frappe de Benjamin Pavard en huitième de finale de la Coupe du Monde de football, une frappe qui restera dans l'histoire du foot français. Évidemment. Et qui a fait la popularité du jeune latéral droit. C'est donc lui qui a choisi la chaîne Cartoon Network pour incarner sa campagne Stop au harcèlement. On s'écoute un petit extrait du clip enregistré par le champion du monde.
S'il y a quelqu'un qui est à côté tout seul, faut jamais le laisser tout seul, faut lui poser des questions, faut jouer avec lui au ballon, jamais laisser un enfant tout seul. Faut s'amuser, faut jouer en équipe et c'est ça le plus important. Contre le harcèlement, on doit tous faire équipe. Ce qu'il y a de pire, c'est le silence. Stop au harcèlement, à toi de parler. C'est Benjamin Pavard.
À toi de parler, le slogan de cette campagne de Cartoon Network qui commence aujourd'hui. À garder en tête si vous êtes victime ou témoin de harcèlement. Si c'est votre cas, vous pouvez composer le 3020, un numéro gratuit dédié aux victimes et aux témoins de harcèlement.
Orange et Altice ont bien enterré la hache de guerre. La preuve, ils sont même à nouveau partenaires.
Tout le monde se souvient du psychodrame du mois de septembre lorsque BFM, RMC Story et RMC Découverte avaient disparu des écrans des abonnés Orange. Si tout est rentré dans l'ordre depuis, après quelques jours de tension, les groupes continuaient de discuter d'un nouvel accord de distribution. Ces négociations viennent d'aboutir. Orange versera donc une rémunération à Altice pour certains services qu'on dit enrichis, c'est-à-dire une fonction replay plus étendue ou la possibilité, par exemple, de reprendre un programme lorsqu'on en a raté le début.
129 femmes sont mortes de coups portés par leur compagnon ou leur mari, une violence qui mobilise aujourd'hui tout le monde et même les médias. M6 a présenté hier un dispositif entièrement consacré à la question du féminicide.
Tous les ans, en France, 230 000 femmes subissent des violences au sein de leur couple, un chiffre en constante augmentation. Pour répondre à ce défi qui nous concerne tous, M6 a donc décidé de mobiliser son antenne pour sensibiliser ses téléspectateurs. Un numéro d'enquête exclusive de zones interdites vont être consacrées à ce sujet le dimanche 24 novembre à la réalisation du documentaire de Zones interdites, un documentaire exceptionnel. Mélanie van der Ende, notre journaliste Louise Bernard, lui a demandé quelles étaient ses intentions lorsqu'elle a commencé à filmer.
J'avais envie de montrer le mécanisme dans lequel en fait ces femmes sont emprisonnées. Souvent les personnes qui sont extérieures à ces phénomènes, ils se disent mais attends, elle pourrait très bien partir, pourquoi elle accepte d'être tapée, frappée pendant autant d'années quand même. Ils n'arrivent pas à comprendre vraiment le mécanisme dans lequel ces femmes se sont retrouvées. Elles sont prisonnières, souvent elles sont prises au piège à la fois dans leur vie de couple, ils les isolent, c'est tout un mécanisme qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et je voulais aussi montrer effectivement qu'il y avait des solutions.
La violence conjugale touche aujourd'hui une femme sur 10 en France et on estime que seule une victime de violence conjugale sur 5 dépose plainte en France. Le travail de pédagogie et d'accompagnement est donc essentiel et c'est donc l'affaire de tous. Écoutez justement ce que pense Ophélie Meunier qui présente Zone Interdite de la place que doivent prendre les médias sur ce sujet.
On voit très bien et on l'espère que les médias ont la possibilité de faire avancer les grandes causes. Et M6 a décidé tout simplement de mettre sa pierre à l'édifice pour cette cause qui est la lutte contre les violences conjugales. C'est un fléau. Enfin, il n'y a même pas besoin de s'expliquer, en fait. Pour dire stop, il faut prendre conscience de là où on en est aujourd'hui et puis montrer les choses qui sont mises en place, qui sont bonnes, et les choses qui dysfonctionnent et qu'il faut faire changer. Donc voilà, on se fait en tout cas l'intermédiaire entre ces victimes et la réalité. Et on montre un petit peu ce que ces gens vivent et on a décidé en tout cas de porter à bas le corps ce combat.
Pour terminer, Philippe, je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui d'Aurélie qui, dans le film de Zone Interdite, témoigne à visage découvert, ce qui est extrêmement rare dans ce genre de situation. Elle nous raconte ce qui lui est arrivé. Elle est au micro de Louise Bernard.
J'avais honte de ce que je vivais, de ce qui me faisait subir. Je n'avais pas envie d'en parler. Il est quand même arrivé à me faire croire que tout était de ma faute si il me tapait dessus en disant que c'était moi qui le poussais à bout, c'était moi qui le rendais fou. Mais en fin de compte, je vois ni pourquoi les enfants y étaient pour quelque chose et moi-même encore moins. Donc à un moment donné, ça boue, puis il faut que ça sorte. J'ai pas de honte à avoir. Toutes les femmes, que ce soit qui que ce soit, on n'a pas de honte à avoir. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'avoir témoigné à visage découvert.
Rendez-vous donc le dimanche 24 novembre pour ce dispositif spécial d'M6 consacré aux violences faites aux femmes. Un sujet dont nous reparlerons prochainement ici, dans Culture Média. Et l'enchaînement n'est pas facile. Ce soir, un numéro d'envoyé spécial consacré à un monde sans viande.
Savez-vous que nous mangeons chaque année 80 kilos de viande, ce qui fait de la France un des pays les plus carnivores au monde? Mais est-ce que cette consommation peut perdurer? C'est la question que se pose ce soir Envoyé spécial, qui pour l'occasion consacre l'intégralité de son sommaire à la question de la viande. Est-ce qu'il faut y voir un engagement de l'émission de France 2? Réponse avec la présentatrice, la journaliste Élise Lucet, au micro de Louise Bernard.
C'est pas un engagement, c'est simplement le fait d'entendre ce qui se passe dans la société, tout le questionnement qu'il peut y avoir, toutes les questions qu'on se pose les uns les autres, écouter à la fois les scientifiques, toutes les personnes impliquées, les agriculteurs bien sûr aussi, les consommateurs, donner la parole à tout le monde, faire évoluer le débat. Oui, l'écologie, oui, l'environnement, ça intéresse les Français. C'est un des thèmes vraiment principaux quand on les interroge, quand on leur demande qu'est-ce qui vous préoccupe le plus là pour les années à venir, les Français disent l'environnement. Donc c'est obligatoire pour nous de nous intéresser à ces thèmes et d'en faire des émissions spéciales.
Attendez-vous donc à d'autres envoyés spéciales alors que France Télévisions s'est justement lancée dans une saison consacrée à l'environnement. Envoyé spécial, c'est ce soir à 21h10 sur France 2.
Et attention, préparez vos smokings, préparez vos robes de cocktail. Ce soir, ce sont les BFM Awards.
Alors pas de M. Pokora ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, mais des patrons, des investisseurs, des entrepreneurs, bref, ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Tout ce beau monde est réuni pour la 15e édition des BFM Awards, décernée par la chaîne BFM Business. Nous avons demandé à Kim Younes Charbi, la toute nouvelle directrice générale de la chaîne, à quoi sert ce genre de cérémonie, d'événement, quand on est une chaîne de télévision. Elle est interrogée par Alexandre Omar.
Je crois qu'il y a une raison assez simple à ça, en fait, qui est liée à la ligne de notre chaîne, la ligne de BFM Business, parler des entreprises. C'est vraiment notre raison d'être, informer les entreprises et les acteurs économiques pour les aider à se développer. Donc, on le fait dans nos émissions, en radio, en télévision et dans le digital, en décryptant l'actualité économique, mais aussi en mettant en avant des retours d'expérience et des succès d'entreprise. Avec des événements comme les BFM Awards, on peut aller plus loin pour raconter les histoires qui se trouvent justement derrière ces réussites.
La cérémonie des 15e BFM Awards, c'est ce soir à Paris et c'est bien sûr également retransmis à la télévision et à la radio.
On se demande bien sur quelle chaîne. Merci ouais. beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias.
L'infomédia du jour à suivre, on va parler du média brut et de son incroyable ascension dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est là Philippe de l'Info Média du jour.
Oui, dans cette Info Média du jour, gros plan sur un média qui n'en finit pas de grandir. Question, mais où donc va s'arrêter Brut? Vous savez, ces vidéos verticales, visibles essentiellement sur les réseaux sociaux et sur votre smartphone. Brut vient de lever 40 millions d'euros, un pactole qui va permettre à la start-up française, car c'est français, d'investir aux États-Unis, nouvelle terre de conquête. Avec cette nouvelle levée de fonds, Brut est désormais valorisé à 130 millions de dollars. La marque est née à Paris en novembre 2016. Brut a connu une ascension fulgurante. C'est destiné aux millennials, mais pas seulement. Ses vidéos virales ont cartonné. L'équipe visait 20 millions de vues au terme de la première année. Ce chiffre a été atteint au bout de 6 semaines. Aujourd'hui, les stats donnent le vertige. En septembre dernier, 1 milliard 100 millions de vues cumulées, 250 millions de spectateurs uniques par mois dans le monde, 50% des audiences générées via Facebook et Brut est visible dans 60 pays. Alors, quelle est la recette miracle? Dans quelles conditions ce média est né? Quel est le modèle économique de cette start-up? Quel avenir et quels objectifs? Ça fait beaucoup de questions. Pour y répondre, je reçois Renaud Levanquim. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Vous êtes l'un des 4 fondateurs de Brut et l'ancien producteur du Grand Journal de Michel Denisot sur Canal+. Alors avant de nous dire ce que vous comptez faire de ces 40 millions, première question, comment est né Brut ?
Brut est né de mon départ du Grand Journal et de Canal+. Je suis parti avec une équipe de journalistes qui travaillait sur l'actualité, la société, la politique sur le Grand Journal. Et on ne savait pas tellement quoi faire. Et comme on n'avait pas de boulot, on a décidé de faire des vidéos sur Internet. Et en vrai, c'est né de l'inspiration et de l'intuition de mon ami et associé et cofondateur de Brut, Guillaume Lacroix, qui nous a dit un jour, il nous a envoyé un SMS en disant « Si on n'a pas de boulot, pourquoi on ne fait pas des vidéos sur Internet qui racontent l'info ?»
Il y avait Agiplus aussi, de la chaîne Qatari Al Jazeera.
Oui, il y avait Agiplus. Mais Agiplus, c'est un modèle différent, parce que c'est un modèle c'est une déclinaison digitale d'un modèle linéaire. Ils sont nés parce qu'aux États-Unis, ils ne pouvaient pas rentrer en tant que média linéaire, donc ils ont créé un couloir digital.
Vous êtes parti avec quel argent? Avec le vôtre?
Je suis parti de Canal ou je suis parti avec le...
Pour Brut.
Je suis parti avec le mien au départ parce qu'on n'avait rien. Donc j'ai investi au départ mes fonds propres.
Vous avez cassé votre PEL quoi en gros.
Mon assurance vie.
Ouais. Et ensuite ça a démarré comme ça. Quelle réaction des investisseurs avez-vous eu lorsque vous démarchiez et que vous étiez vibrionnant tout petit?
Alors ça dépend. On a eu une opportunité qui a été l'intuition de Delphine Arnault, la présidente de France Télé, je ne sais pas, mais elle nous avait à la porte de son bureau quand ce n'était pas la mode, puisqu'on faisait juste des vidéos sur Internet. Et tout le monde nous disait, c'est quoi ces petites vidéos que tu fais sur Internet? Donc, ce n'était pas grand-chose au départ, en tout cas. Et c'est l'une de celles qui nous a ouvert la porte très vite. Et qui aujourd'hui, au bout de 3 ans, toujours le partenaire média de Brut.
Et c'est pour ça qu'on peut voir des vidéos Brut sur France Info, la chaîne, par exemple, sur le canal 27.
Tout à fait, c'est la seule chaîne qui a le droit de poster et de partager les vidéos de Brut sur le canal linéaire.
Alors, quelle est la formule, la recette magique de Brut? Pourquoi ça marche et pas les autres?
D'abord, les autres, ça marche aussi, parce qu'il y en a aux États-Unis, enfin, on n'est pas le seul. On est un modèle, il y a plusieurs choses. D'abord,
Sur le contenu,
c'est, on a une ligne éditoriale qui privilégie, je dirais, le set de valeurs d'une génération qui a moins de 30 ans, au sens large, qu'on appelle maintenant les millennials, voire même les plus jeunes, la génération Z, et qui privilégie des thématiques comme l'impact social, l'environnement, la responsabilité des décideurs, des leaders, les minorités. Donc c'est un set de valeurs qui est très important pour nous, parce que non seulement c'est le set de valeurs des millennials, mais en plus, il correspond à des thématiques qui sont globales. Et en fait, on a eu, je pense, nous, une coïncidence qui est une opportunité, c'est qu'on s'est mis à parler à une génération qui tout d'un coup consommait, ou en tout cas partageait, des valeurs identiques dans le monde entier. Et donc très vite, Brut est devenu un modèle international, un modèle global, alors qu'au départ, on ne s'était pas imaginé autre chose que faire un média français. Et la spécificité de Brut, c'est que vraiment aujourd'hui, c'est un modèle global.
D'où le nombre de vues dans le monde entier. On va entendre un extrait, par exemple, elle s'appelle Adja Idrissa Ba, c'est une jeune Guinéenne, elle a 20 ans, elle se bat contre le mariage forcé et l'excision dans son pays et dans le monde. Elle raconte, extrait.
Je condamne fermement la pratique de l'excision parce que ça empêche la jeune fille de s'émanciper, ça empêche la jeune fille d'avoir confiance en elle et elle pensera toujours qu'elle est un problème parce que pour résoudre cela, il faut qu'on coupe une partie de son corps pour qu'elle ne soit pas un problème. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes, c'est une pensée, c'est une idéologie qu'on nous met dans nos têtes depuis l'enfance et nous réduisant non seulement moralement mais aussi physiquement. Donc il est temps vraiment que les choses changent.
Évidemment, ça touche toute la planète, cette question, ce questionnement. C'est Brut qui avait diffusé la première vidéo de Greta Thunberg. Comment vous l'aviez repérée?
En gros, on scrute en permanence chez Brut tous les acteurs du changement. Alors évidemment, on a publié la première vidéo virale. Mmh. Elle était déjà un peu, elle avait une forme de notoriété dans le milieu des activistes.
Bien sûr.
Mais on a publié la première vidéo virale de la militante climatique. Mais en gros, nous, on essaye de scruter et de partager un peu ce que souhaitent les spectateurs principaux de Brut, qui sont quand même les plus jeunes et qui veulent un monde meilleur, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui concerne les initiatives des jeunes qui sont acteurs du changement, alors que ce soit dans des domaines climatiques ou dans les domaines des minorités, comme c'est le cas avec ce qu'on vient d'entendre.
Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, ça marche. On va aussi parler du modèle économique de Brut, savoir si vous allez retrouver vos petits. À tout de suite.
Dans l'infomédia du jour, on parle du social media Brut, ces vidéos virales qui font souvent le buzz sur Internet. À quoi doivent-elles leur succès? On continue à en parler dans Culture Média, juste après ça sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le média Brut est né en 2016 et connaît depuis une ascension fulgurante. Quelle est la recette de ce succès? On en parle ce matin, Philippe, avec votre invité, Renaud Levanekim, le cofondateur de Brut.
La recette et aussi la couleur. Je voudrais qu'on entende un extrait pour situer le genre de vidéos que vous faites et qui sont partagées dans le monde entier. Celle-ci est en français, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en anglais. Je précise qu'elles sont toutes sous-titrées puisqu'on peut les regarder sans avoir le son. Là, on va entendre deux enfants, deux jeunes. Gaëtan, il a 5 ans. Soukamba, elle a 12 ans. Deux enfants qui ont déjà été confrontés au sexisme et qui racontent chacun, chacune, leur expérience.
Bonjour, avec quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré.
Puisque j'étais une fille qui pensait que toutes les filles ne savaient pas jouer au foot. Et c'était que des garçons. Ils me disent non, tu ne peux pas jouer au foot, tu ne sais pas jouer et tout. Et moi je leur dis mais comment vous savez ça, vous n'avez pas vu jouer. Et après je joue avec eux, et je ne vais pas me vanter, mais j'ai quand même un bon niveau. Et après ils sont un petit peu... ils sont pas choqués, mais voilà. Après, on joue ensemble.
On n'est pas dans l'info mainstream, c'est pas ce qu'on entend habituellement, le petit garçon qui pleure parce qu'il peut pas jouer à la poupée. Quand vous avez démarré Brut, est-ce que vous attendiez un tel accueil?
Non, après, il y a eu plein de choses qui ont été contre-intuitives dès le départ. En fait, ça a démarré vraiment sur le plan éditorial, parce que là, on entend un témoignage de la petite de Soukamba et de Gaëtan, c'est quand le troisième cofondateur de Brut, Laurent Lucas, ouais, a rejoint l'aventure. Il était, moi je travaillais avec lui au Grand Journal et au Petit Journal. Il a une obsession, c'était de raconter l'info aux jeunes et aux millennials différemment, en tout cas de manière un peu non conventionnelle. Et en fait, un jour, il a fait une vidéo qui était une vidéo de Bernie Sanders qui, au début du mandat de Trump, taclait l'administration Trump. C'est une vidéo qui ne parle pas tellement aux Français. Non. À l'époque, on faisait 50 000, 100 000 vues par vidéo. Et puis, d'un coup, on a vu cette vidéo qui a fait 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 8 millions, 10 millions, 15 millions. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a compris, en fait, que ce qui était important, c'était pas tant la notoriété des gens dont on parlait, mais l'histoire qu'il racontait. Si l'histoire qu'il racontait était universelle, la vidéo fonctionnait bien, était partagée, engageait la conversation et devenait globalisée.
On vous a copié aussi. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la première vidéo d'un nouvel arrivant et concurrent, Loopsider? Il y en a eu beaucoup d'autres depuis.
Alors, c'est pas du copiage, c'est qu'en fait...
Vous avez changé la typo parce que ça ressemblait trop.
Non, nous, on a pris une typo d'usage qu'on a utilisé, qu'on a gardé tout le temps. Ce qu'on s'est mis, c'est qu'on s'est calé sur les usages. Ouais. Très vite, on s'est dit, les usagers, les gens, les spectateurs qui regardent Brut et qui consomment Brut sur leur mobile, ils tournent pas leur mobile de manière horizontale, donc on va faire du format carré. Ouais. On a près des deux tiers des gens qui regardent Brut, qui le regardent sans le son parce qu'ils sont dans le métro ou ailleurs, donc on s'est mis à sous-titrer. Donc ça, c'est des usages qui prennent. Moi, je trouve ça très bien que tout le monde le fasse, que ça soit ici ou d'ailleurs dans d'autres pays. Donc on a été pastiché, il y a d'autres médias qui ont été créés. Moi, je pense que pour le coup, c'est pas de la faudercherie, mais il y a vraiment de la place, c'est pas très grave. Ouais.
Et puis, on va pas les citer ici, mais il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont lancés et qui sont arrêtés. Vous parliez de millions, on va parler de millions de dollars. Ils viennent de tomber dans votre escarcelle. Qui sont les investisseurs?
Alors, il y a des Français, des Américains. Là, les nouveaux investisseurs qu'on a trouvés il y a peu de temps sont un groupe qui s'appelle Red River West, qui dépend de Artemis, qui est le fonds de François-Henri Pinault. Mm-hmm. Et puis, il y a un garçon qui s'appelle Alexandre Mars, qui est un homme formidable, qui a un fonds américain et français, et qui a fondé dans Brut aussi, et donc ce sont les deux principaux nouveaux investisseurs de Brut.
J'ai dit une fois 40 millions d'euros, une fois 40 millions de dollars, ce sont
40
des
millions de dollars.
Qu'est-ce que vous allez faire de cette somme? D'abord du recrutement aux États-Unis.
Oui, alors
Parce que vous êtes combien, il faut le dire? Vous êtes une centaine en France?
On est une centaine en France dans les bureaux parisiens, et puis on a un bureau à New York, et en fait, aux États-Unis se fabrique l'ensemble des US et du Mexique. Ouais. Et tout le reste se fait en France.
D'accord.
Voilà. Et donc, il se trouve que la France s'est devenue rentable cette année. Donc, on est un média qui a l'équilibre en France, qui n'est pas encore le cas à l'étranger. Et donc, cet argent va servir à pouvoir recruter une équipe, je dirais, de commerciaux, de sales, pour pouvoir monétiser nos contenus aux États-Unis et arriver à la même chose qu'en France, à l'équilibre.
C'est pas des journalistes, c'est des commerciaux que vous recrutez.
Oui, pas seulement, mais beaucoup. Oui.
En septembre, Brut a conclu un partenariat avec Facebook pour produire le nouvel onglet Facebook Watch, pardon, c'est ça,
oui,
des vidéos quotidiennes sur l'actualité. C'est un gros contrat, c'est une exclue, ou est-ce que vous êtes ou c'est à la marge et vous êtes plusieurs sur ce coup-là avec Facebook?
Non, je crois qu'il y a M6 aussi qui travaille avec Facebook Watch. Ouais. On vient de fabriquer une série avec Guillaume Canet qui va à la rencontre des agriculteurs en France. Mm-hmm. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se déployer un petit peu dans tous les points de contact où on pense qu'il y a du public et des millennials. Il y a 2 milliards de gens sur la planète qui ont moins de 30 ans. Ouais. Il y en a la moitié qui consomment quasiment pas ou plus la télévision. Et c'est un bassin d'audience important pour Brut. C'est eux qui vont consommer Brut. Et on est à un modial, je dirais, social first, parce qu'on a démarré sur Facebook, mais on s'est très vite déployé aussi sur d'autres réseaux et sur d'autres points de contact, dont Facebook Watch.
J'ai deux enfants, 16 et 18 ans, ils ne regardent jamais la télé. Vous faites aussi ce qu'on appelle dans le jargon de la marque blanche. Expliquez ce que c'est. Vous produisez pour des sociétés, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est à la marge, mais en gros, il y a aujourd'hui une sorte de narration, un savoir-faire et une narration spécifique à Brut, et donc il y a beaucoup de marques qui nous disent on voudrait des vidéos à la Brut, donc à la marge on fait
c'est
ça.
Du c'est du brand content.
C'est pas du brand content, c'est
le
la marque
brand content, j'explique, c'est quand on fait une sorte de publi rédactionnel et on se fait payer par la marque, on est sûr comme ça d'être financé.
Ouais, alors ça on fait pas ça, nous.
Ah bon?
On fait pas ça, nous on choisit des histoires. C'est pas les marques qui les choisissent. On refuse. On travaille pas pour, je sais pas moi, les industries fossiles. Il y a beaucoup de gens pour qui on veut pas travailler. On choisit des histoires et on propose aux marques de nous rejoindre pour accompagner le mouvement.
Alors vos concurrents vous caricaturent souvent. C'est le principe des concurrents, en disant que Brut c'est une armée de petites mains et de stagiaires très jeunes qui travaillent d'arrache-pied comme des forcenés. C'est la réalité.
Oui, sauf que ce n'est pas des stagiaires, ils sont salariés.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est une armée de gens qui travaillent d'arrache-pied, les vieux et les jeunes, et que la moyenne d'âge, à part moi, elle est assez jeune, oui.
Prochain objectif, ça sera ma dernière question. Vous visez quoi, le coup d'après ?
Le coup d'après, on souhaite aux US réussir ce qu'on a réussi en France.
Et si vous voulez voir, si vous n'êtes pas sur Europe1.fr, que vous voulez voir la tête de Renaud Levent-Kim, on va vous voir dans le film de Michel Denisot. Vous avez quel rôle ? Vous avez votre rôle ?
Ben, j'ai mon propre rôle, parce que je ne suis pas comédien, donc j'aurais été incapable de faire autre chose. Donc je joue mon propre rôle dans le film de Michel qui sort dans 15 jours. Là.
Je ne me souviens plus du titre, je l'ai oublié, ça s'appelle Toute ressemblance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est le vrai Renaud Levent-Kim. Je rappelle que vous êtes le co-fondateur de Brut. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci.
Notre prochain invité est Fabrice Bailly, le directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1. Il vient nous parler de l'actualité de la chaîne dans un court instant. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Fabrice Bailly.
Bonjour Fabrice Bailly.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des programmes de TF1. Gros week-end s'annonce pour vous, pour TF1, qui peut déterminer en partie la suite des opérations. Samedi soir, il y a les Energy Music Awards. Ce soir, Danse avec les Stars. Mais surtout, demain, vendredi, l'émission la plus attendue, toute chaîne confondue de cette rentrée. Ça s'appelle Masked Singer. C'est un format coréen qui a fait un carton et le plus gros démarrage partout où c'est passé, aux États-Unis, au Mexique, en Allemagne. Racontez le principe à qui n'aurait jamais vu une seule bande-annonce sur TF1.
Ce qui serait quand même assez rare, j'ai l'impression. Ouais, il y a 12 personnalités en fait qui vont chanter masquées sous des costumes incroyables.
Ouais.
Et à l'aide d'indices distillés dans les magnétos, il y a 4 enquêteurs qui sont Angoon, Alessandra Sublet, Kev Adams et Jarry qui vont tenter de deviner avec les téléspectateurs quelles sont ces personnalités qui se cachent sous ces masques incroyables.
Alors les personnes chantent pour de vrai, mais quand elles parlent, évidemment, leur voix est masquée. On va entendre, on a fait un montage, on va entendre la bande-annonce.
D'accord.
Préparez-vous pour un événement top secret.
Mais c'est qui ?
Mais c'est fou,
c'est dingue.
Mais c'est quoi cette voix ?
Incroyable!
Il y a une star là derrière!
Quelle célébrité se cache derrière le masque?
Alors Fabrice Bailly, là vous êtes en chair et en os, vous avez vu le résultat final. Je ne vais pas vous demander si c'est bien, puisque vous êtes le patron des programmes, vous allez dire oui c'est bien. Comment vous avez trouvé l'émission par rapport aux autres formats que vous connaissez également?
Bah en fait, on l'a repéré à partir du moment où c'est arrivé aux États-Unis.
Ouais.
C'est-à-dire c'est un format qui était assez connu en Asie du Sud-Est, mais circonscrit à l'Asie du Sud-Est. Et puis on a vu que la Fox achetait le format. Quand on lit le pitch de ce format, on se dit c'est assez dingue, c'est assez incroyable. Quand on a vu l'émission, c'est totalement hypnotique. Et c'est vrai qu'on joue du début à la fin. Et c'est un format qui est extrêmement addictif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit que les audiences progressent à chaque fois dans les pays, de la première à la dernière émission, parce que plus on voit l'émission, plus on a envie de savoir, plus on joue. Je peux vous le dire, moi j'étais sur le tournage, tout le monde joue. Le public, les enquêteurs, les techniciens, Camille Combal qui présente, qui ne sait pas qui se cache derrière les masques. Tout le monde joue et à 98%, tout le monde se trompe.
Alors, j'ai eu la chance, moi, de voir les 25 premières minutes et j'avoue que c'est assez impressionnant. Alors, j'ai pas vu la résolution de l'énigme. J'ai vu que les battles. Je sais pas qui va rester, qui va partir, mais la licorne contre la panthère, même avec les indices, c'est hyper difficile de trouver. On peut les donner ici ou on peut pas spoiler les indices, ou on peut déjà donner les indices?
Bon, allez-y, si vous voulez donner quelques indices.
Alors, je veux dire, c'est juste complètement dingue. La panthère, des indices complètement étranges. On voit des boîtes de pizza parce qu'il y a un film. Elle raconte qu'elle est connue dans le monde entier, qu'on peut la comparer à Michelle Obama. Elle dit « Vous connaissez mon homme, quel bonheur de le voir représenter son pays ». Et là, personne ne sait qui ça peut être.
Oui, et puis souvent d'ailleurs, vous allez voir, dans le magnéto, il y a des indices qui... D'ailleurs, il y a une deuxième partie de soirée où une fois que la personnalité est démasquée, on explique les indices. Parce que tous les indices sont justifiés. On se dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça ?» Mais lorsque les enquêteurs voient le magnéto des indices en même temps que les téléspectateurs, souvent, ils sont vraiment sur une piste. Et puis, dès que la personnalité se met à chanter, alors là, ça part totalement sur autre chose.
Et la licorne, alors qu'ils chantent si bien, je vais vous dire, je vais donner aucun indice, mais les enquêteurs, donc les quatre, ils ont proposé les noms de Marianne James, Amélie Mauresmo, Isia Higelin, Maïté, Michel Bernier et même Catherine Pancol, qu'on recevait hier, pour dire comment les gens sont complètement perdus. Évidemment, tout cela est le plus secret possible. Ouais. Camille Combal, au moment où il présente, ne sait pas qui est sous les masques. Et vous, le réalisateur non plus le connaissait pas. Tristan Carnet, vous-même, vous connaissez les noms. Ouais. Vous les connaissiez dès le début.
Ouais.
C'est vous qui avez validé la liste. Donc je viens vous demander, c'est quoi les procédures de sécurité? Parce qu'il y a un magnéto qui montre ça, là aussi, dingue. On est dans la CIA.
En fait, les personnalités, déjà, le cachent à leur entourage. C'est-à-dire, personne dans leur entourage ne sait. Et d'ailleurs, l'un des moteurs de la plupart des personnalités, c'est de dire, le vendredi soir, quand je vais être sur mon canapé en train de regarder l'émission avec mon entourage et qu'ils vont découvrir que c'est moi sous le masque, c'est la surprise que je veux faire. Et c'est vraiment un des grands moteurs de ces personnalités. Ouais. Donc, elles sont, en fait, on leur donne rendez-vous dans un endroit tenu secret. Là, elles enfilent leur costume.
Une sorte de combinaison, on dirait une combinaison nucléaire, où on ne reconnaît personne. Ils arrivent avec des gardes du corps. Je vais résumer parce que j'ai plein de questions à vous poser.
Allez-y.
Et chacun doit donner ses portables à l'entrée, signer, le public signe une déposition comme quoi jamais il ne parlera. Il y a des portiques de sécurité. C'est presque plus facile de sortir en scooter de l'Elysée avec un casque que d'aller à Masked Singer. Business, vous avez beaucoup, TF1 a beaucoup misé sur cette émission. 6 épisodes, vous attendez quelle audience?
Vous savez, par exemple, vendredi dernier, on a fait un gros score avec la chanson secrète présentée par Nikos. On était aux alentours de plus de 30% sur les sites publicitaires et 4,5 millions. Si on est dans ces scores-là, on sera très content.
Pas
mais
plus.
Vous savez, à chaque fois, franchement...
Non, je veux dire pourquoi, parce que The Voice, bon, ça faisait 4,3 millions la saison dernière, mais il y a 5 ans, j'ai regardé, ça faisait 7,5 millions. C'est fini ces scores avec la TNT et la SVOD?
Franchement, il y a tout le temps des surprises. Donc, vous savez, lorsqu'on avait lancé The Voice, la première saison, lorsqu'on a regardé le score de la deuxième partie de soirée, le matin, on a cru que c'était le score de la première partie de soirée, parce que le score était tellement énorme. On a tout le temps des surprises. Franchement, sur Masked Singer, ce qu'on fait, c'est qu'on met toute notre énergie dans le programme, avec le producteur, je tiens à lui tirer mon chapeau, qui est Hervé Hubert. Après, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. On lance, c'est un pari, c'est un risque. Le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. On en prend un et on verra bien.
On va bien voir, parce qu'on va aussi parler de beaucoup d'autres choses. D'abord, combien ça coûte? C'est quand même le nerf de la guerre. Et puis, on va parler d'autres choses, que Fabrice Bailly s'occupe également de la fiction. Il y a des grosses, grosses choses, des gros projets qui arrivent sur TF1.
C'est Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1, qui est notre invité. On continue à passer au crible les programmes de la chaîne juste après ça sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans Culture Média, on continue à parler des programmes de TF1 avec son directeur des programmes, Fabrice Bailly, qui est notre invité. On parle notamment de l'émission événement Masked Singer qui démarre demain soir, Philippe.
Émission très attendue, on dit que c'est le plus gros lancement sur TF1 depuis 10 ans. La question qui fâche, combien coûte un épisode? On parle de plus d'un million d'euros par épisode, Fabrice Bailly.
Je vais pas vous dire le montant exact, mais c'est dans la fourchette haute des divertissements de TF1 au niveau de...
Donc le million d'euros.
Danse avec les stars.
Mais c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher que Danse avec les stars.
Non, non.
Ou que les émissions là,
c'est... Non, mais c'est... Tous ces divertissements sont des divertissements évidemment sur lesquels on met les moyens, qui sont souvent extrêmement spectaculaires. Quand on regarde Voice, Danse avec les stars, vous avez pu voir Philippe Massinger, l'argent est à l'écran.
Oui, mais là aussi il y a de l'argent à l'écran et de l'argent hors écran, parce qu'il y a toute la logistique, tout le système de se cacher, les gardes du corps, il y a tout un environnement qui n'existe pas dans les autres émissions.
Absolument.
Plus les costumes.
Ouais.
Alors, j'ai lu que les costumes coûtaient très cher. Et j'ai lu dans la presse entre 10 000 et 40 000 euros le costume.
Ouais.
Vous confirmez?
Oui.
Mais pourquoi vous n'avez pas acheté les costumes aux Coréens d'Ocras? Puisque quand vous êtes en Bob l'éponge, personne ne sait.
Ou en Pokémon. Sur TF1, on ne fait pas de l'Ocras.
Non, en vrai.
Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir,
c'est
qu'il y a un brin de psychanalytique sur Masked Singer. Parce que les célébrités, les stars, en fait, elles choisissent leur personnage.
Ouais.
Et le personnage est un élément de la personnalité des célébrités. C'est déjà un indice de la célébrité. Et oui.
Alors, je n'avais pas compris ça.
Et certaines personnalités nous ont dit « Je me sentais tellement bien sous ce costume. Par moments, je me sentais mieux. Et ça m'a permis d'encore mieux chanter.
D'accord.
J'ai pu me libérer d'être sous ce costume et d'endosser une personnalité. » Et vous pourrez voir qu'elle joue le jeu à fond.
Si ma grand-mère était là et était encore de ce monde, elle dirait à 40 000 euros, c'est bien la moindre des choses de se sentir bien, parce qu'on se demande quelle somme...
Oui, mais quand vous voyez à l'écran, ces costumes, ils sont incroyables, ils sont extrêmement spectaculaires.
Je confirme, j'en ai vu que deux, mais je confirme. Les autres programmes, comment fonctionne The Voice, Koh-Lanta?
The Voice et Koh-Lanta, en fait, ça fait partie... En fait, Masked Singer, ça va rejoindre tous ces grands divertissements de TF1 que sont Voice, Koh-Lanta, Danse avec les stars, etc. The Voice, moi, j'ai vu le casting de la prochaine saison. On revient aux fondamentaux, c'est-à-dire des très grandes voix. Je peux vous dire, franchement, je pense que c'est un des meilleurs castings qu'on ait eu, voire le meilleur.
on a changé un petit peu les coachs.
Ça allait être ma question. Comment vous faites pour pas rincer des franchises comme ça et pas les user?
On se renouvelle, on change par moments les mécaniques. Bon, sur Voice, le principal renouvellement, il est dans les coachs, c'est vrai. Là, il y a Marc Lavoine qui nous rejoint, qui rejoint Pascal Obispo, Amel Bent. Il y aura aussi Lara Fabian. On sera vraiment sur The Voice, sur la voix, les grandes voix. Et il y a des performances. Moi, j'étais sur le casting début novembre, c'est incroyable.
En 30 secondes, parce que je voudrais parler de fiction, que vont devenir la chanson secrète, Qui veut gagner des millions et Sortez-moi de là, je suis une célébrité, ça va revenir?
Sur Sortez-moi de là, je suis une célébrité, on est en train de réfléchir. Bon. La chanson secrète, ça va revenir. Ouais. C'est un très très grand succès. Et puis, qui veut gagner 10 millions, ça dépendra des occasions qui se présenteront.
Alors, il y a la fiction, vous lancez la série la plus ambitieuse également depuis 10 ans, Le Bazar de la Charité. Ouais. Racontez ce bazar, tiens.
En fait, c'est Le Bazar de la Charité, je pense, c'est un des projets les plus audacieux et les plus ambitieux de ces 15 dernières années sur TF1. C'est une fresque qui raconte le destin de trois femmes, incarnée par Audrey Fleurot, Camilo et Julie de Bonnat, qui vont se retrouver mêlés à un fait historique qui est l'incendie d'un grand magasin qui était le Bazar de la Charité à la fin du 19e siècle. Et ce grand incendie extrêmement spectaculaire, extrêmement bien réalisé par Alexandre Laurent, va donc bouleverser leur destin.
Mais une question, parce que moi j'ai rien vu, on va le voir pendant combien de temps l'incendie? Parce qu'il y a 6 épisodes, ça brûle pendant 6 épisodes.
Non, il y a 8 épisodes et l'incendie c'est uniquement... En fait, c'est l'inverse du film catastrophe. Dans Titanic, ça coule à la fin. Bah là, l'incendie, il est au début. Et c'est l'incendie qui va provoquer le changement dans le destin.
Après, pendant les 7 derniers épisodes, il n'y a plus une flamme.
Non, il n'y a plus une flamme, non.
Mince alors. C'est produit par Quad Télévision, la société qui lui avait produit le film Intouchable. 17 millions d'entrées dans le monde, en coprod avec Netflix. Là encore, la question que tout le monde se pose, quel budget?
17 millions d'euros.
Ça fait presque 3 millions par épisode.
Oui, deux et quelques. Deux et quelques.
C'est quoi la politique de TF1 maintenant en matière de fiction? Vers quoi vous allez? On a l'impression que vous faites, je vous le reproche pas, de plus en plus de films et de téléfilms, de séries sociétales.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour nous, la fiction française, ça doit être le miroir de la société française. Et d'ailleurs, le Bazar de la Charité, c'est assez intéressant. Parce qu'au départ, on se dit, ah tiens, c'est une fiction d'époque, etc. Mais pour nous, il s'agissait d'être extrêmement actuel dans les problématiques. C'est une série sur l'émancipation de la femme. Ouais. Les trois personnages cherchent à s'émanciper et essayent de trouver leur liberté. Et quelque part, ça se passe dans un environnement qui est extrêmement actuel. Sur le Bazar de la Charité, la première chose qu'on a soupçonnée pour cet incendie, c'est le terrorisme. Ouais. C'est les anarchistes à l'époque. Dans les grands magasins, il y avait une parano par rapport à ça.
Il y aura 8 épisodes, on les verra sur Netflix, on les verra sur Salto aussi.
Non, ce sera sur Netflix. Donc il y a une première diffusion sur TF1 et on les verra ensuite sur Netflix.
Ils vont être contents, les gens de Salto. C'est le Netflix à la française avec le groupe TF1, le groupe M6 et le groupe France Télévisions. Ça commence bien. Merci de votre franchise. Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1.
Merci Philippe.
On poursuit avec notre heure culture. Philippe, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.